Nous nous reprenons la dernière phase de cette matinée là, sur le rapport des ateliers. Donc l'atelier numéro 1.
L'atelier 1 nous a permis de voir le cas d'un collège Anne-Franck, donc dans la région de Nantes. C'est un collège qui a été créé en 1999 pour regrouper un certain nombre d'élèves dont les autres visiblement voulaient se débarrasser, qui posaient problème, qui étaient démotivés par l'école. Donc une personne avait créé cette structure en regroupant des professeurs militants qui étaient tout à fait d'accord. L'institution l'a implanté dans un autre établissement en perte de vitesse. Donc ils étaient déjà une personne rapportée sur un établissement. Et donc progressivement, il y a eu des conflits entre établissements qui sont devenus de plus en plus forts, entre élèves aussi. La personne qui avait regroupé et créé ce complexe s'est retirée, donc les professeurs se sont retrouvés plus ou moins seuls. Ils étaient dans un cadre expérimental, donc pour faire accepter, pour faire entrer des élèves en grande difficulté, les remotiver pour un système scolaire. Ils ont mis en place un certain nombre de moyens pour remotiver ces élèves. Donc, il y a des choses qui se sont faites, mais comme il n'y avait plus de personnes pilotes, progressivement, ils ont commencé à fonctionner en autonomie et ont eu de plus en plus de mal à créer un référentiel et à donner un sens à leur enseignement. Donc l'équipe de chercheurs est intervenue à un moment donné à la demande des institutions pour essayer de créer une médiation entre eux, les professeurs et les institutions. Donc, on a longuement discuté par après pour voir quelles solutions trouver. Alors, on s'est déjà posé la question pourquoi ça n'a jamais été rattaché à l'établissement à côté avec lequel il y a tellement de différends. Parce que finalement, il pourrait créer une entente, permettre d'avoir une structure. Et pourquoi aussi l'institution ne s'est jamais penchée sur ce cas-là pour apporter une aide et créer quand même un lien et un fil rouge de conduite.
Le 11, c'est vous ?
C'est l'atelier. Quoi.
Et vous ?
Et moi ?
Oui.
Moi, je trouvais que l'institution s'est déchargée d'un problème et s'est bien gardée de reprendre en main les choses parce que ça les arrangeait bien. Hein. Donc ça, c'est mon point de vue personnel.
Hein. C'est ce que je vous demande.
Voilà,
voilà.
Tout à fait.
Voilà. Alors, juste la remarque, précisément, tant que le compte-rendu... Et donc, la commande n'était pas un compte-rendu. Elle a fait un compte-rendu. Hein, d'accord. Et donc, dès lors qu'elle prend partie du dire « je », regardez et observez vos réactions. Ben oui, non mais si à un moment donné, il faut avancer... Et si on veut provoquer quelque chose, il va falloir travailler sur ces dimensions-là et dire s'engager soi pour dire ben, est-ce qu'on partage ces points de vue ? Manifestement, ça a l'écho dans l'assistance. Donc, de ce rire-là, il va falloir peut-être en parler. Alors, c'est pas l'objet maintenant, mais dans un travail d'équipe, il faudrait dire ben, pourquoi on partage ces points de vue ? Est-ce qu'il est argumenté ? Et là, on peut partir de... Il y a un travail à faire à ce niveau-là, véritablement. Donc, je vous remercie d'avoir dit « je ». Voilà.
Voilà. Voilà.
À vous.
Alors, moi, je. C'est bien. Alors, moi, j'ai repéré des questions sans réponse, même si on a tenté d'y répondre.
Très bien.
Alors, est-ce que, bien souvent, enfin, je pose la question, j'y réponds pas. Est-ce qu'une recherche d'évaluation naît souvent d'un conflit, d'un problème repéré. Dans le cas précis, est-ce que le CREN a réussi à jouer son rôle de médiateur, qui était très nettement identifié au départ? Je ne suis pas sûre qu'ils puissent y répondre vraiment, tous les deux. Que signifiait le mot médiateur dans ce cas très précis-là? Ils se sont aussi posé la question. D'ailleurs, on a repéré que dans cette situation très précise, la difficulté naissait d'un problème de terme. les mêmes termes n'avaient pas le même sens entre l'institution et les expérimentateurs. Encore une fois, faut-il préférer mettre des enseignants débutants auprès d'élèves difficiles? L'expérimentation naît-elle souvent d'un regard critique du système éducatif traditionnel? Une question qu'on s'est vraiment posée longtemps, c'est: y a-t-il besoin d'un pilote dans l'avion? C'est ce qui semblait manquer. Y a-t-il besoin d'un pilote dans l'avion pour aider à donner de la méthode et du sens à une expérimentation? Par rapport à l'étude qui nous a été montrée, est-ce que le groupe qui expérimente, je généralise, n'a pas tendance à ne montrer aux chercheurs que ce qui fonctionne? Jusqu'à quelle limite l'expérimentation peut-elle s'émanciper du système institutionnel? Pour être efficace dans une évaluation de dispositif, l'évaluateur, le chercheur, doit-il être totalement vierge d'informations au départ? Vous n'étiez pas très à l'aise par rapport à ça, pour nous parler. Vous n'aviez pas toutes les informations, ça vous a gêné, mais en même temps, c'était bien de ne pas les avoir au départ.
Non, c'est une question importante.
Dans ce cas précis, dans ce cas non, ça n'a aucun intérêt.
Ça, c'est subjectif.
Tout à fait. Ça ne peut pas se généraliser, pour ça je ne peux pas en parler. Quelle pérennisation des expérimentations le chercheur... quelle pérennisation des expérimentations? Le chercheur a pointé des dysfonctionnements, mais cela engage-t-il tout le temps le groupe qui expérimente à arrêter ou à ajuster? Faut-il laisser à l'expérimentation un temps illimité ou limité? Et à la fin, que veut vraiment signifier expérimental dans l'alliance du mot établissement expérimental? Que faudrait-il pour mériter vraiment cette appellation? Faut-il une structure ou un cahier des charges institutionnel pour obtenir légitimement ce label? Quel support institutionnel peut accompagner une expérimentation à l'échelle d'un établissement scolaire?
Bon. On avait demandé, sollicité trois questions. Une bonne dizaine. Ce qui montre que quand on donne des rôles, d'abord on est toujours surpris. Que les gens les remplissent quand ils sont positifs, les rôles, quand ils ont suffisamment de consistance et non pas vidé de sens. Hein, le délégué classe, c'est un rôle de vidé de sens tel qu'il est, mais si vous lui donnez un peu de densité et qu'il y a un peu d'enjeu, là il y a de l'enjeu. Hein. Vous avez posé des questions, j'aurais pas osé les poser. Hein. Mais c'est vous qui avez le droit. Hein. Vous avez toute légitimité et justement le rôle est exercé par vous au nom des autres. Vous êtes légitime. Vous avez un rôle de porte-parole, de décodage, d'analyse. Et merci en tout cas. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on va en faire quelque chose. Extrêmement riche en tout cas. Merci en tout cas, chers collègues. Il y a le deuxième atelier qui travaillait sur la prise en compte des élèves dans l'évaluation d'une expérimentation. Donc j'ai deux personnes qui doivent arriver.
Donc, nous avons travaillé sur le deuxième atelier, prise en compte de l'élève dans l'expérimentation. Ce que j'ai aimé dans cet atelier, en commençant par là, je pense que je suis dans le subjectif. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que l'exposé était clair. Il a suscité beaucoup de questions, beaucoup de remarques, beaucoup d'interrogations. Mais ce que j'ai encore beaucoup plus aimé, c'est qu'à la fin, tout le monde était d'accord. J'aime quand les gens sont d'accord.
Donc, c'est votre propre subjectivité.
Voilà, j'insiste. J'insiste. Donc, d'accord sur quoi je veux juste vous dire en deux mots, c'est-à-dire le titre de l'atelier, hein, la nécessité de faire une place à l'élève dans l'expérimentation. Bon, quelle place, ça reste à déterminer, mais je ne vais pas en dire plus, sinon je risquerais de passer à l'objectif. Mmh. Et quand même, pour aller plus loin, j'ai apprécié l'idée de cheminement qui a été évoquée. Alors, j'extrapole parce qu'elle a été très peu évoquée, mais moi, je suis... lié au premier degré, enfin, je travaille en premier degré, là il s'agissait d'un parcours post-troisième, et donc cette idée de laisser à l'élève la possibilité de choisir ou non d'ailleurs son parcours jusqu'à un éventuel diplôme universitaire. Donc ça me permettait de me poser la question, est-ce que nous, dans le premier degré, avec nos histoires de cycles, premier cycle, deuxième cycle, vous avez aussi des cycles dans son degré. Hein.
Vous croyez ? Ah bon ?
Est-ce que nos cycles sont suffisants pour permettre à nos élèves, nos jeunes élèves, de cheminer dans leur scolarité vers jusqu'au brevet en tout cas, enfin pour ce qui nous concerne jusqu'au CM2. Voilà.
Merci.
Alors, n'ayant pas entendu la consigne des trois questions...
Au moins trois.
Donc, nous en avons sélectionné cinq. Beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de réponses aussi, partielles, plus développées. Alors, la première... Une des questions posées, c'était lorsqu'une expérimentation est engagée, faut-il nécessairement ou faut-il attacher une importance toute particulière au profil des élèves concernés par cette expérimentation ? À leur représentation et que faire de ces profils et de cette analyse concernant les élèves. Deuxième question, peut-on dire que le changement de posture de l'enseignant engagé dans l'expérimentation entraîne de façon presque assurée un changement de posture de l'élève et comment évaluer cela, comment évaluer ce processus? Y a-t-il d'ailleurs toujours un effet miroir? Quelle est la place, troisième question, quelle est la place de l'affectif hein, chez les enseignants, dans le rapport enseignant-élève, dans la réussite d'une expérimentation? Faut-il prendre en compte cette place de l'affectif? Quatrième question, comment maintenir une vraie dynamique collective et surtout comment la maintenir dans la durée, dans le cadre des expérimentations jusqu'à 5 ans? Et enfin, la valorisation d'une expérimentation telle que nous pouvons faire à travers nos missions de valorisation, joue-t-elle un rôle conséquent dans la réussite même d'une expérimentation? Et quel est ce rôle? Comment l'évaluer? Voilà, c'était très très riche au niveau des questions, des réponses.
Tout à fait. C'est
très intéressant.
Tout à fait.
Merci.
Merci beaucoup. Oui, quand on pose des questions, il ne faut pas chercher les réponses. Hein. La réponse, c'est la mort de la question, hein, disait... Michaud, je pense que c'est un auteur français qui disait ça, hein, hein, c'est, il me semble que c'est ça. Et on a vu que qu'il s'agissait souvent de poser la bonne question ou les bonnes questions plutôt que de poser des questions. Voilà.
C'est la mort provisoire.
C'est la mort provisoire. Voilà. Et puis il y a des questions qu'on traîne toute sa vie. Pourquoi je suis pas beau? Allô maman? Bon, peu importe, ça c'est complètement subjectif. Le troisième atelier, chemin d'installation, d'expérimentation en sciences et en techno. Donc il y a deux personnes qui doivent arriver.
Bon, alors je vais essayer de vous dire ma vision très subjective de ce qui a été dit dans l'atelier. Donc il s'agissait de parler des chemins d'installation, d'expérimentation en sciences et technologies. Les intervenantes ont choisi, comme elles l'annonçaient dans le descriptif de l'atelier, de présenter une construction idéale typique fondée sur un travail concernant trois expérimentations qu'elles avaient suivies. Donc on a eu droit à quelque chose qui pourrait être une espèce de portrait robot fabriqué à partir d'observations portant sur les trois cas. Le portrait robot m'a paru assez désincarné. De fait, j'avais l'impression quand on disait, on employait le mot cette expérimentation, je ne savais plus très bien de quoi on parlait. Et je pense que à leur décharge, hein, je crois qu'elles l'ont senti, puisqu'elles ont elles-mêmes proposé au moment de la conclusion et des questions, on aurait peut-être dû. Donc je crois que c'était. Enfin, il m'a semblé que c'était partagé ce sentiment du coup. Alors qu'est-ce qu'on a dit d'important, à mon sens? On a parlé de la. Donc comme on était sur une. Peut-être une valorisation des parcours scientifiques, enfin. Quelque chose comme ça, il me semble. Est-ce qu'on avait affaire à des élèves concernés par une option, quelque chose qui servait à de la sélection, ou est-ce qu'on parlait d'enseignement obligatoire? Une autre question qui s'est posée, c'était la place un peu fugitive des mathématiques dans certaines des expérimentations, voire l'absence. Et donc, la question s'est posée du rôle des IPR, en particulier par rapport à ça. On l'a quand même évoqué, hein, c'est pas une question cachée. Et puis, ce qui est apparu au moment où les questions, enfin, on est passé aux questions, c'est qu'en fait, on a un peu obtenu de voir les cadavres, pas seulement le portrait robot. Et à ce moment-là, on a vu qu'il y avait un peu de sang à certains endroits. Mais en même temps, ça devenait beaucoup moins désincarné, et du coup, ça fait apparaître un peu plus de réalité. Il y a une chose qui a été dite, c'est que l'aspect évaluation avait été escamoté dans les processus, dans les établissements. Et voilà, bah, donc je me suis demandé finalement si les évaluateurs avaient évalué. Enfin, je ne sais plus très bien là. Du coup, finalement, ce qu'il faut. Enfin, je suis perplexe quant à l'aspect évaluation. Voilà, bon, moi je vous ai rendu compte de ce que j'avais.
Merci.
Alors concernant les questions qui étaient très peu cachées, hein, parce que beaucoup a été exprimé, mais en tout cas qui sont restées sans réponse, c'est effectivement lié à la présentation sous forme d'idéal type synthétique. J'ai l'impression que nous sommes restés un certain temps à nous demander mais de qui s'agit-il, où est-ce que c'est et que se passe-t-il. Donc ça finit par être levé. À un moment, je me demande même si certains ne sont pas interrogés sur certaines expérimentations, sont-elles bien innovantes? Donc là, on avait des projets qui, concernant une approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire des sciences. Une question qui est peut-être plus un doute, disons, qui a pu transparaître à certains moments, c'est comment l'institution traite-t-elle l'innovation et le souhaite-t-elle vraiment? Et la souhaite-t-elle vraiment? Et puis sinon, pour conclure, les questions seront courtes, mais ont généré de grands débats. De la même façon que certains parents vont se demander ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leur enfant difficile, on s'est demandé, mais que faire des mathématiques? Et que faire des programmes et des disciplines? Je me demande même si certains ne se demandaient pas comment s'en débarrasser. Donc je crois que nous resterons sur ces grands éléments.
Merci beaucoup. Merci. Donc ça fait un pulse qui s'enrichit. Et quand il y a un pulse, il faut savoir quelle est l'image. On a des parties du pulse, et tant qu'on n'a pas l'ensemble, on ne va pas avoir une image bien, bien réelle. On va la voir, j'espère. Allez-y, donc c'est le quatrième atelier.
Oui, je jouais le rôle d'auditeur des questions.
Très bien.
Sur un atelier qui s'interrogeait sur le passage de l'innovation à l'expérimentation dans un cadre d'école, qui concernait la mise en place d'heures de philosophie en classe de première, innovation au départ en 2005 au lycée Jean Perrin et qui a basculé en 2007 en expérimentation. Donc nous nous sommes interrogés à partir de l'idée que l'évaluation étant un objet protéiforme, elle induit dans le cadre de l'expérimentation une production d'outils différents. Donc, il faudrait arriver à produire un écrit commun partagé par les différents acteurs. Alors, concernant le rapport de la recherche, attendons-nous un apport, une critique ou une évaluation, véritablement? Comment rendre ce rapport lisible par les différents acteurs, que ce soit l'équipe, les chefs d'établissement ou peut-être même à d'autres niveaux. Comment, en même temps, ce rapport doit-il ou peut-il parfois conforter les enseignants dans leur démarche, même si parfois ils ne le lisent pas forcément. Concernant le changement de positionnement des différents acteurs, est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est l'émergence d'effets inédits faisant boule de neige puis se cristallisant qui amène les acteurs à bouger sur leur ligne et à partager des points de vue ? Quant à la question de l'évaluation partagée, comment définir un objet commun d'observation qui puisse contribuer à une évaluation partagée ? Est-ce par la méthode, par une entrée par la méthode ? Est-ce par une entrée sur les résultats ? Est-ce par une entrée sur les pratiques innovantes induites par l'expérimentation ? Quant au devenir de l'expérimentation, comment peut-elle être pérennisée d'abord ? Qu'est-ce qui peut être généralisable ? Est-ce les faits sur les élèves ? Est-ce les procédures ? Peut-on même mutualiser les échecs ? Et au bout du compte, est-ce que ce qui est transférable, ce n'est pas d'abord une idée ? C'est tout.
C'est tout.
Et on a beaucoup élagué.
Bon, merci.
À vous.
Pardon.
Merci. Voilà, donc moi j'avais regardé tout ça avec un œil subjectif. Je crois que je l'ai fait. Et je me suis intéressé aux mots, simplement aux mots, au vocabulaire. Alors je vais vous raconter l'histoire autrement. Il était une fois, donc, dans la périphérie nantaise, un lycée. Et dans un coin de ce lycée, deux, trois prêtres, un enfant de cœur, qui était en train de se poser une question. Comment est-ce qu'on pourrait sanctifier la philosophie ? Et donc, leur idée, c'était de faire une petite crèche et de remplacer l'enfant Jésus par Sainte Sophie, ce qu'ils tentaient de faire. Alors là où ils n'ont pas eu de chance, ou peut-être là où ils ont eu terriblement de chance, c'est qu'un chien courant, qu'on appelle couramment un bigle, couramment, bon, c'est normal, un bigle passe par là, pointe sa truffe sur la crèche et dit, mais oh là là, ça sent bon, et puis ben, ça va, chien courant, ça hurle. Oh, oh, je ne vais pas vous le faire, parce que je le fais trop bien. Et ces cris, ces hurlements remontent jusqu'à la Fédération départementale de la chasse, qui alerte l'ONF, et on dit, bah tiens, ils ont lâché du gibier à Jean Perrin. Allons voir. Alors donc, je vous rappelle l'objet, sanctifier la philosophie, et donc tout l'arsenal de... je dirais, de spécialistes arrivent. Alors on a, je rentre, si vous voulez, dans le détail du vocabulaire, des chercheurs, des experts, des développeurs, ils arrivent avec plein de choses. Alors ils savent construire, piloter, ils ont des analyses, on parle de laboratoire, de TIS, de technologie, d'expérimentation expérimentée, cahier des charges, innovation, éléments, cristallisation, tester, enquête, indicateur, indice, interrogation, critères, recherche, questionnaire, conseil, préconisation, principe, évaluation, contamination, stérilisation, et oui, jusque-là. Et on touche même à l'électricité, puisqu'on parle de relations bipolaires, voire multipolaires. Bipolaire, je comprenais encore, multipolaire, j'ai pas mis les doigts. Et ça, c'est pour faciliter les contacts, hein, vous aurez compris. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, voilà comment se... Le problème de départ est entouré, c'est-à-dire que là où on voulait faire une crèche, on a presque l'impression qu'on veut construire une salle d'exao. Et bon, c'est pas un fiasco, loin de là, rassurez-vous, parce que à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que lorsque l'équipe se réfère à nouveau à Sainte Sophie, Sophie la sagesse, hein, soit dit au passage, il se passe quelque chose. J'en prends les termes là encore, hein, j'emploie le vocabulaire que j'ai entendu. Il se passe effectivement quelque chose. Et là, on entend parler de... on entend des termes tout à fait différents. On entend parler de tâtonnement, de repentir, de partage, d'accompagner, accompagner de façon vivante, échanger, inédit, opportunité, ressenti, boule de neige, parler de cœur à cœur, épure, envie, s'écouter, et tenez-vous bien, on a même parlé des... Alors la conclusion, pas la mienne, parce que la mienne va arriver après, la conclusion du groupe, c'était, il a été drôlement difficile de trouver des objets communs entre chercheurs, accompagnateurs et acteurs. Étonnant. Bon, ça, ce sont les mots qui ont été prononcés. Moi, ce qui m'intéresse, des fois, c'est les mots qui ne sont pas prononcés. Et il y en a un que j'attendais en me disant « pourvu qu'il ne soit pas prononcé », parce que ce mot, il m'énerve prodigieusement. Et pendant les trois quarts du temps, j'ai pensé, j'ai eu la naïveté de penser que ce mot n'arriverait pas. Il y avait pourtant eu des prémices. On a parlé d'engranger, on a parlé de pépinière, et d'un seul coup, le mot est tombé, et il a été répété plusieurs fois, « le terrain ». Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, c'est que souvent, les gens qui sont restés à l'école appellent l'école l'école. Et les gens qui, à un moment donné, ont quitté l'école appellent l'école le terrain. Alors, ça m'a rappelé une citation que mon voisin de droite ne démentira pas, puisque j'ai entendu dire « Ce qui n'a pas pu s'apprendre à l'école, l'expérience de terrain peut permettre de l'acquérir ». Ça voudrait donc dire que le terrain est différent de l'école, voire que l'école deviendrait terrain si elle devient une école différente, et en tout cas, ça veut dire sûrement qu'il y a des gens qui se plaisent dans un milieu qui est peut-être petit, rassurant, calfeutré, qui s'appellerait l'école, et des gens qui leur montrent un vaste espace en leur disant « mais regardez le terrain qui est vaste autour de vous ». Et je crois que Christine nous a donné une piste en parlant, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, de proposer des terrains d'expérimentation. Et c'est vrai que si on parcelle le terrain, si on le met au pluriel, d'un seul coup, on a peut-être une vision moins contradictoire entre le petit lieu école et l'infini qui serait le terrain. Et alors, pour terminer, ça sera ma conclusion, ben, elle sera forcément agricole, vous l'avez compris, puisque je suis un chantre de la ruralité. Les questions qu'on se pose, j'ai pensé avec l'image de Christine, lorsqu'on parle de proposer des terrains d'expérimentation, j'ai pensé aux jardins ouvriers. Vous savez, dans les villes, hein, on propose des jardins ouvriers aux personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et j'ai deux vieux copains, figurez-vous, qui sont amis critiques dans un jardin ouvrier, c'est-à-dire qu'ils sont agriculteurs en retraite et ils sont là pour donner des conseils aux équipes qui tentent d'expérimenter parce qu'elles ont appris le jardinage dans un bouquin et qu'elles essayent de le transposer dans le jardin. Et j'ai eu l'occasion de casser la croûte avec eux il n'y a pas longtemps, rassurez-vous, j'ai presque fini. Et voilà trois de leurs conclusions qui vont sans doute vous rappeler quelque chose. Ils déploraient par exemple l'incapacité qu'ont les gens à mettre en commun des parcelles. Hein, par exemple, ils disent ils font chacun des plants de patates dans un mouchoir de poche, alors que s'ils se mettaient à plusieurs, on pourrait mutualiser des planches pour faire des patates, mutualiser des planches pour faire des poireaux, etc., ça serait sans doute plus efficace. Mais ça, ils n'arrivent pas à faire passer l'idée. Alors, ils déploraient aussi le fait qu'ils apprennent aux gens à faire des semis, les gens font des semis, et à côté de ça, ils vont repiquer des plants qu'ils vont acheter chez Gamme Vert. Quand je touche 10%, vous m'excuserez. Et pour la fin, je vous la donne en mille, ce qu'ils déplorent le plus, c'est que pratiquement la moitié des gens qui se sont époumonés pendant une saison pour faire pousser des légumes, eh bien, à la fin de la saison, on trouve les légumes, personne ne les ramasse et ils sont fichus. Voilà, c'est tout.
Est-ce que j'ai besoin encore de défendre l'enrôlement, la prise en compte à des moments donnés de nos dispositifs, de la subjectivité, De la parole des acteurs, de la compétence des acteurs de terrain.
D'école.
Et donc, d'une certaine façon, enfin, c'est pas qu'une certaine façon, d'une façon certaine, vous tous ici qui avez parlé, avez contribué à dire des choses, alors je ne sais pas si c'est de l'évaluation, mais en tout cas, à évaluer à chaud, à donner plus que des impressions, vous commencez à encoder et à enregistrer, à faire votre soit des apports, des expériences, des questions. Si vous partez avec mal à la tête ce soir, ce sera peut-être un bon signe aussi. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de la créativité que vous avez su mettre dans vos comptes rendus. Et je voulais merci en tout cas. Christine, on n'a pas le temps, du temps. C'est quoi
5 minutes.
Donc je voudrais commencer avec vous à vous proposer une première élaboration. Oui. À commencer une première élaboration de ces questions. Donc on a énormément de questions. Si vous avez eu le temps de prendre en compte les choses, on a à peu près une trentaine d'items, à peu près, qui sont extrêmement riches. Et une organisation qu'on pourrait faire, et donc je vais essayer de la faire entre midi et deux pour la restituer, mais c'est de proposer ce qu'on pourrait appeler pompeusement, et encore un gros mot, excusez-moi, mais c'est le mot aussi, les profs le savent, une carte heuristique ou une carte mentale, ou un schéma heuristique. Voilà. C'est très à la mode chez nos amis finlandais. Pas que les Finlandais, évidemment. En France, ça se développe beaucoup. Il y a même une école française d'heuristique qui est assise à Paris, hein, efh.fr, par exemple. Et donc, c'est une façon, si vous ne connaissez pas, une façon simplement d'organiser les connaissances et de proposer un premier tri. Et donc, le premier tri que moi, je vous propose de faire, c'est qu'autour de cet attracteur étrange qui est l'expérimentation et donc son évaluation, sur les différentes questions qu'il aborde, il y a quatre grands rameaux, quatre grands synapses qui sont en train de se dégager. Donc, le premier a été un rappel, un re-questionnement sur les concepts eux-mêmes. Donc, il faut y revenir, il faut le ressasser, encore une fois, hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que si l'enfant Jésus a été évoqué tout à l'heure, finalement, chez les chrétiens, la messe, ça fait 2000 ans que ça dure. Enfin, on ressasse les choses et on se le redit. Voilà. Et l'histoire nous montre que ça n'a pas été inutile aussi de refaire ce genre de choses. Donc, de retravailler sur un certain nombre de concepts, de se les redire, comme Tintin a fait tout à l'heure avec l'évaluation, finalement, de quoi on parle. Voilà. Se le redire. Et donc... on va essayer de développer l'arborescence à partir de ce qu'on a engrangé. Un travail autour de tout ce qui est les processus, avant même que de parler du fonctionnement institutionnel, et donc des questions qui sont données à l'institution. Et on s'aperçoit quelles sont les questions qui sont délicates, quelquefois. Donc il y a une question autour des processus même de l'expérimentation et de son évaluation. Sont signalés, donc on va essayer de les organiser. Et puis évidemment, il y a aussi quelque chose autour de l'ami critique et de son accompagnement, enfin l'accompagnement, pas de l'ami critique, l'accompagnement de l'expérimentation et de son évaluation, avec des questionnements autour de la recherche, autour du rôle de l'écrit, de la médiation, etc. Et donc on va essayer d'organiser ça cet après-midi. C'est une organisation qui en vaut une autre. Elle a le mérite d'être à la fois graphique, donc d'être visuel, de proposer et d'organiser finalement la complexité, comment je fais pour organiser 30 items, si ce n'est une liste qui va être difficilement mémorisable, alors que la carte heuristique va vous permettre là aussi d'un meilleur encodage, une meilleure organisation, et peut-être une organisation des débats tout à l'heure pour la table ronde.